Bonjour, vous écoutez FM Plus 91 FM à Montpellier. C'est le second numéro de l'émission Le Fil du Fer, l'actualité plus ou moins actuelle des projets en tout genre. On se dit comme on se lit dans le regard des autres. Jérôme Daron, vous avez suivi une formation en soins infirmiers. Aujourd'hui, c'est votre métier. Vous êtes infirmier en gérontologie dans une maison de retraite. Il y a quelques jours, vous m'avez dit avoir eu le besoin de retourner dans le concret. Vous avez 37 ans, vous êtes né à Auxerre, vous habitez Montpellier. En compagnie de Pauline Aurin, qui a fait des études en sociologie, vous avez concrétisé deux projets, Au fil de soi et Nos mémoires vives. Mais parlons de vous. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Partons de là. Parlons de la réminiscence, puisque c'est cela qui façonne votre projet et qui peut-être est le fil rouge de votre parcours de vie. Quel est le souvenir vers lequel vous aimez vous tourner? Pourquoi celui-là? Est-ce que c'est un souvenir fondateur?
Un souvenir précis. Il est vrai que certaines personnes ont des souvenirs bien précis. Moi, ce serait plutôt plein de souvenirs en fait qui sont fondateurs, fondateurs de ma personne, et puis fondateurs aussi de mes engagements. Mais on va dire, allez, comme pour tout le monde, c'est le souvenir du départ, le souvenir de l'enfance. Donc je vais dire mon village d'enfance.
Votre village d'enfance, et comment était-il ce village de l'enfance?
Tout petit, mais convivial et charmant.
Convivial et charmant, comme je crois ce que vous êtes. À quel moment de votre vie avez-vous compris que prendre soin des autres, et donc du monde, allait avoir autant d'importance dans votre vie?
En fait, c'est quelque chose qui s'est révélé à moi au fur et à mesure. Je pense pas qu'il y a eu un vrai flash, mais je suis rentré dedans depuis que je suis tout petit, avec ma famille une famille de prolétaires qui se tournent vers l'autre, mais qui se dévouent aussi pour l'autre. Et c'est vrai que quand en y réfléchissant, on se rend compte que finalement le lien familial m'amène vraiment à me tourner vers l'autre et à avoir une forme de bienveillance envers l'autre. Mais ça a été quelque chose qui était progressif et qui s'est révélé. En fait, en faisant le retour sur mon parcours de vie, on se rend compte que, ah oui, quand même, ouais, il y a quand même quelque chose qui s'est créé dans ce sens-là. Ouais.
Donc, votre enfance a fondé votre identité et une partie de votre personnalité qui se tourne vers l'autre, le souci, le soin, ce qu'on appelle aujourd'hui le care. Quel mot utiliseriez-vous pour décrire votre conscience sociale, puisque vous venez de parler du milieu prolétarien duquel vous venez? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous émeut pour en arriver à votre vision du monde actuel?
Le mot, je pense que c'est la solidarité. C'est vrai que on se retrouve dans des situations où finalement on a toujours besoin de l'autre. Et c'est quand même important d'avoir déjà conscience de ça, qu'on ne vit pas tout seul. On vit essentiellement grâce à l'autre et par l'autre. Et c'est de là où ça part de l'enfance. Au final, j'ai été bercé dans cette conscience-là de la nécessité de considérer l'autre à juste titre, comme il est et pour ce qu'il est. Et mes parents, mon père a eu une sorte d'abnégation de ce qu'il était pour pouvoir élever sa famille dans le sens propre, mais aussi dans un sens un peu plus noble. Et ma mère avait ce regard toujours bienveillant et coucounant, on va dire. Donc il y avait une espèce de symbiose qui faisait que on doit se dévouer à l'autre, mais avoir toujours aussi l'attention nécessaire et le regard qui est tourné vers l'autre pour l'élever.
Et donc, c'est ainsi que vous vous lancez sur la voie des soins infirmiers. Enfin, je suppose que c'est quand on arrive à l'âge de 18 ans que l'on se pose ce genre de questions.
C'était un petit peu plus tard pour moi. Avant ça, j'ai fait une fac de géographie dans l'idée de faire professeur d'histoire géo. Et il me manquait quand même quelque chose de plus rentre dedans, je pense, plus rentre dedans dans les personnages, dans la personnalité, dans l'identité. Et c'est de là que je me suis posé la question quel métier pourrait me permettre à la fois d'avoir cette chance-là de côtoyer l'intimité des gens et aussi un métier qui me permet de me lever le matin sans vraiment me poser de questions pourquoi je me lève le matin. Donc ça s'est tourné un peu par hasard, mais je me suis retrouvé dans une école d'infirmiers un beau matin, en me demandant toujours quand même est-ce que ça va être quelque chose qui va me plaire ou pas. Et puis au final, au bout de ma formation, je me rends compte que j'ai trouvé mon public, voilà, les personnes âgées, les vieux, et la façon d'aborder aussi ce public avec le soin et à travers le soin.
Vous parlez de votre public, donc les personnes âgées, les vieux ou les aînés. Je ne sais pas comment on doit dire aujourd'hui ce qui est acceptable de dire selon vous. Quel mot doit-on utiliser ? Vieux peut sembler violent pour certaines personnes.
Bah, tout dépend comment on regarde la vieillesse, mais soyons francs et corrects, ce sont des vieux. Je suis vieux pour eux, on est tous le vieux de quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de l'admettre. Après, quand on n'arrive pas à nommer les choses, c'est peut-être aussi qu'on est un peu horrifié. Donc n'ayons pas peur de nommer les choses.
Pour acquérir, votre conscience sociale actuelle, votre point de vue sur la société telle que vous venez de la décrire, faut-il une rencontre particulière, avoir vu un film, avoir écouté un documentaire, lu un livre ?
Je pense qu'il faut avoir tout ça. C'est l'environnement, en fait. Je sais pas, en fait, ça a toujours... La géographie explique un petit peu mon parcours, où j'ai besoin aussi de m'approprier mon environnement, mon espace. Et dans mon environnement, dans mon espace, il y a des gens. Il y a des gens qui sont à l'intérieur de tout ça. Et de voir les interactions qui agissent entre les gens, ça m'a toujours un peu... ça m'a toujours suscité de la curiosité. Et de comprendre un petit peu comment tout ça se fabrique, comment tout ça se noue, comment tout ça se lit. Et ben, ça m'a intéressé et j'ai toujours eu et pris conscience que l'autre était nécessaire. L'autre est nécessaire.
Justement, pour vous, que signifie regarder et écouter les gens qui vivent avec nous, nos grands-parents, les êtres et les choses ?
Excusez-moi.
Alors, que signifie pour vous regarder aujourd'hui la conscience de l'autre ? Vous parlez de la conscience de l'autre. Aujourd'hui, on regarde les autres avec bienveillance, vous pensez ? Est-ce qu'on fait attention aux autres ? Est-ce qu'on prend le temps d'écouter notre voisin, la personne qui est au bas de chez nous ? À quoi ça correspond pour vous ? Qu'est-ce qui résonne en vous, dans votre façon de regarder et de voir les gens regarder d'autres personnes ?
Il y a peut-être ce manque de temps, tout va vite. On est dans une société où tout va vite, tout va très vite. Et la considération de l'autre, de plus en plus, je trouve qu'elle est sur quelque chose d'utilitaire. On va vers l'autre parce qu'il nous est utile. On va vers l'autre parce que ça va être notre collègue ou on a besoin de quelque chose sans s'attarder sur ce qu'on peut appeler une rencontre, une vraie rencontre. En fait, on cherche plus forcément les rencontres, j'ai l'impression. Et d'autant plus qu'on met des gens dans des cases beaucoup plus facilement. On a besoin de séquencer. Donc il y a les vieux d'un côté, les jeunes d'un autre, les gays, les... Alors que tout ça, c'est un joyeux et un beau mélange qu'il faut essayer de saisir pour pouvoir comprendre la totalité de son existence et ce que c'est aussi l'existence. Et c'est vrai qu'en s'attardant un petit peu plus sur qui habite à côté de chez moi, ça peut être intéressant de comprendre pourquoi on est ici aussi.
Et avec votre métier, donc infirmier en gérontologie, comment est-ce que vous le définiriez ce métier et quel est le lien avec tout ce que vous venez de dire précédemment?
Comment définir ce métier? Ben c'est du lien, c'est de la c'est attaché, détaché, c'est tout sauf piqué, je vais dire. Souvent souvent on caricature le métier d'infirmier comme des piqueurs, comme des c'est pas ça, c'est essayer de recréer un lien avec la vie. Un lien avec les autres et un lien avec aussi nous. Et c'est plus quelque chose de, c'est ce que je disais tout à l'heure, de rentrer dans l'intimité des gens avec beaucoup de pudeur, sans les brusquer, sans les offenser, tout en respectant ce qu'ils sont. C'est s'adapter, c'est regarder, écouter un cœur.
Et est-ce que ça s'apprend? Ou qu'est-ce qui fait que l'on apprend à écouter un cœur? Est-ce qu'il y a une méthode? Enfin, j'imagine, je vous laisse le dire. Si, comment vous y êtes arrivé?
Il y a un stéthoscope. Non. C'est des choses qui s'apprennent. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas le nier. Hein, on a une formation et cette formation... Au fil du temps, elle nous permet quand même d'avoir un peu cette conscience-là. Après, on est sur des choses très technico-techniciennes et de toute façon, c'est ce qu'on va nous faire valoir. Quand on est payé à l'acte, forcément, il vaut mieux faire une piqûre ou un pansement plus que de s'attarder à l'autre et l'écouter tout simplement parce qu'elle a des difficultés pour pouvoir accepter une maladie, des difficultés pour pouvoir se voir vieillir, des difficultés pour pouvoir simplement aller aux toilettes, mais si elle ne nous le dit pas, si on ne lui laisse pas le temps de le dire, il est beaucoup plus simple de mettre une protection que de pouvoir l'accompagner. Je veux dire, Oui, c'est ça, écouter aussi un cœur, c'est se lire le regard de l'autre pour pouvoir aussi se voir que c'est notre semblable et que on parle d'autonomie, de... Mais je veux dire, il ne faut pas galvauder le mot, l'autonomie, on l'a depuis tout le temps.
Merci pour ces mots. Nous allons écouter un moment de musique avec Lugner de Toffi, qui est un auteur, compositeur, chanteuse à Montpellier.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio FM+, 91 FM à Montpellier. Vous écoutez le second numéro du Fil du Fer, le porteur de projet est Jérôme Dairon. Jérôme, présentez-nous vos deux projets ayant été aboutis, le Fil de Soie ainsi que Nos Mémoires Vives.
Alors, en fait, au Fil de Soie, c'est le projet embryonnaire de Nos Mémoires Vives. Et en quelques mots, Nos Mémoires Vives est là pour essayer de casser ces regards qu'on peut avoir sur la vieillesse. La vieillesse, ce n'est pas un problème, c'est avant tout une période de la vie qu'il est joyeux d'atteindre quand même. Hein. Plus on devient vieux, mieux c'est, il me semble. Et en fait, Nos Mémoires Vives est là pour essayer de tirer le positif de ce que c'est que de prendre de l'âge. Prendre de l'âge, c'est oui, c'est atteindre des âges extrêmes, 90, 100, c'est de plus en plus courant. Et c'est de prendre toute cette potentialité qu'il y a derrière, c'est une chance que de pouvoir avoir ces personnes à nos côtés et d'aller vers eux pour pouvoir comprendre l'ampleur de ce qu'est notre société déjà, mais aussi ce que peut être notre vie à l'échelle de 200 ans, ou même voire plus, puisque quand on échange nos regards d'une personne à une autre, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que dans quelques temps, à nos extrémités, on va avoir 300 ans de vie.
Les membres fondateurs de Nos Mémoires Vives sont vous et Pauline Aurin. Est-ce que vous pourriez présenter votre cofondatrice, s'il vous plaît ?
Pauline est une amie. Où on s'est retrouvés sur ce sujet. Comment expliquer ? C'est-à-dire qu'elle, elle avait une vocation qui était beaucoup plus technico-artistique autour du son et de l'audio, avec un attrait quand même qui était très fort pour la personne âgée, et notamment, elle avait mené déjà certains projets autour de ses grands-parents et de leur histoire de vie. De là aussi une formation en sociologie qui lui permet d'avoir une approche autour du récit de vie qui est avec méthode. Et moi, une envie, je vais dire pressante au moment de notre rencontre, d'aller voir plus loin, parce que malheureusement notre métier nous permet même plus de s'arrêter sur les gens. On s'arrête plus sur leurs problèmes de santé, mais on s'arrête pas sur qui est la personne. Et je trouvais intéressant de pouvoir essayer d'introduire au sein de ma pratique, de la pratique, ce récit de vie. Et de ce fait, on s'est rencontrés et ces deux personnalités ont fait que ça a donné naissance à Nos Mémoires Vives.
Qu'est-ce que le Fil de Soie et Nos Mémoires Vives ont exigé de vous, Jérôme, pour être mené à leur terme ?
Du travail. Du travail. Non, mais de l'ouverture aussi, parce que tous les deux, on est issus de formations qui sont pas sur de l'entrepreneuriat, qui sont pas sur du montage de projets entrepreneurial. Et c'est un autre monde quand même aussi, je veux dire, c'est une autre culture, c'est une autre appréhension de la façon de voir le travail. Et c'est vrai que ça nous a demandé, à elle comme à moi, hein, une ouverture sur quelque chose qui n'était pas forcément très porteur dans nos valeurs, on va dire même.
Parlez-nous d'une des offres de Nos Mémoires Vives, les bobinographies, conserver l'histoire familiale.
C'est simplement le récit de l'un des aînés de la famille pour pouvoir conserver cette histoire familiale, la passer de génération en génération. Donc c'est une proposition qui permet à une famille de se réunir autour de son aîné et lui proposer de se dire, de pouvoir dire qui elle a été et de comprendre au sein d'une famille, mais pas que, parce que après l'intérêt aussi c'est de pouvoir tirer de la petite histoire la grande histoire. et de comprendre un petit peu ce qui fait l'histoire familiale, mais l'histoire aussi, je veux dire, de la société, à travers une histoire singulière. Une histoire qui est sans doute banale pour la personne, mais qui est toujours extraordinaire au final.
Justement, pour illustrer votre propos, nous allons entendre un passage du témoignage recueilli par Madame Beauté, évoquant ses années 39-45.
Nous étions jeunes mariés. Vous savez, nous nous sommes connus. Il avait 17 ans, moi 17 ans et demi, moi 17 ans. Et nous ne nous sommes jamais quittés. Il a été mobilisé une première fois, mais c'est curieux, il y a eu une mobilisation. Et puis un mois après, on les a, soi-disant qu'il y a eu un accord, bon, on les a redémobilisés. Mais trois mois après, de nouveau, ils étaient démobilisés directement. Et alors, il est parti de Sète, c'est là que mon père l'a accompagné. On les a envoyés à Saint-Tonnet-Camp. Et du camp, on les a envoyés dans diverses choses. Et j'étais institutrice à Saint-Ibéry. Vous l'avez lu dans les lettres. Je pleurais, j'écrivais et j'attendais. On attendait, lui attendait de venir, moi j'attendais qu'il vienne. Et je racontais comment ça se passait. Mais je mourais de peur, hein, moi. Parce que moi je suis quelqu'un qui ne suis pas aventureuse, qui suis peureuse. Je me demande comment j'ai eu le courage d'entreprendre ces voyages pour aller comme ça.
Jérôme, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce passage et cette dame, Madame Beauté ?
C'est... déjà, c'est beaucoup d'émotions parce que cette dame, c'était un monstre de mémoire. C'était impressionnant, c'était une ancienne institutrice. Et c'était l'un de nos premiers projets, c'est le deuxième, c'est autour des mémoires de guerre, sur la libération de la ville de Sète en 44. Et cette dame-là vivait en maison de retraite. Et je me rappelle de simplement la présence qu'elle avait, la posture qu'elle pouvait avoir dans sa chambre avec tout. Ses archives, elle avait des livres entiers qu'elle avait écrits. C'était une belle rencontre qu'on a pu faire avec cette dame qui nous a appris plein de choses.
Par quoi commence-t-on pour faire émerger une initiative innovante en direction des personnes du 3e et du 4e âge ? Aussi, à ses débuts, Nos Mémoires Vives a reçu le soutien de l'incubateur d'innovation sociale, Alter Incub. En quoi consista ce soutien ?
L'émergence d'une idée, on va dire, elle vient déjà de l'observation, l'observation dans son ensemble. C'est pas juste regarder, c'est ressentir. Alors employer des méthodes, hein, je veux dire, oui, on peut mettre des choses dans des cases et dire bon bah ça semble être une bonne chose. Mais là, c'est vrai que c'est une idée qui est plus une idée du cœur, on va dire. C'est quelque chose qui est plus un ressenti que quelque chose de très raisonné. Mais de la concrétisation de cette idée-là, il faut raisonner les choses. Alter Incub était là aussi pour ça. Son accompagnement est là pour ça, pour raisonner, pour rendre les choses beaucoup plus pragmatiques et rentrer dans ce monde. Que c'est un incubateur d'innovation sociale dans ce monde où les porteurs de projets ne sont pas forcément très à l'aise avec l'entrepreneuriat, et donner un appui, mais aussi une ouverture de réseau quand même, pour pouvoir faire avancer le projet et le lancer sur de bons rails. Et donc ils sont là pour ça. C'est vraiment un accompagnement qui est sérieux, certainement très dur et très dirigé aussi, puisque c'est dirigé sur l'entrepreneuriat, ils ont des chiffres à rendre, hein, donc de la création d'emplois, sur du chiffre d'affaires, mais il y a quand même cette ouverture sur ce monde entrepreneurial qui est intéressant.
Justement, aujourd'hui, votre regard sur la place de l'innovation et de l'économie sociale dans un pays à la rhétorique entrepreneuriale? Par exemple, une start-up nation, une nation où chacun peut se dire qu'il aura créé une start-up, expliquait Emmanuel Macron le 13 avril 2017. Qu'en pensez-vous ?
Faut pas confondre, je pense, deux choses. C'est l'immédiateté et la longévité. Ça rejoint peut-être même mon sujet de travail. Mais c'est bien gentil de vouloir faire exploser des idées, faire mettre de l'argent dedans. En plus, c'est créer une espèce d'effervescence économique autour de tout ça. Mais on a déjà des bases qui sont très solides autour de quand même ce qu'on peut appeler la sécurité sociale, je le rappelle, hein, qui est une belle économie sociale et solidaire qu'on est en train de mettre à sac. Faut pas le nier. Et qu'on essaie de faire initier des initiatives qui rentrent dans une économie réelle, qui malheureusement n'ont pas de garantie sur du long terme, alors que quelque chose qui est porté quand même par 60 millions de personnes, c'est pas mal.
Qu'est-ce que le parcours des projets, le fil de soie et nos mémoires vives, de leur conception à leur réalisation, a transformé chez vous, Jérôme ?
Peut-être ce regard un peu plus acerbe sur la société, ouais. Quand même. Faut ouvrir les yeux un petit peu. Il y en a qui sont en train de se crever tous les jours pour pouvoir soigner les gens, pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent faire des pas tous les jours, qu'ils puissent avancer et se relever. Et un manque de considération pour ces personnes-là, alors qu'on va... On va avoir beaucoup plus d'intérêt sur des métiers qui sont peut-être pas aussi nécessaires. Ou même mettre, comme je vous disais c'est tout à l'heure, on met beaucoup d'argent sur les initiatives, sur les start-up. Et quand même de voir qu'on engage des sommes très 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 importantes autour de la création de projets. Et que moins peut-être auprès des infirmiers, des aides-soignants, qui, eux, tous les jours, se lèvent tôt le matin.
Jérôme Daron, au moment de nous dire au revoir, et après avoir invité nos auditrices et auditeurs à visiter le site de Nos Mémoires Vives, où ils trouveront l'actualité cette association, de cette entreprise, je vous laisse reprendre l'adage que vous avez proposé pour éclairer notre conversation.
On se dit comme on se lit dans le regard des autres.
C'était le fil du fer, où l'on entend que la différence entre faire et ne pas faire, c'est faire. Chères oreilles et cerveaux à l'écoute, à bientôt pour le numéro 3, et n'hésitez pas à oser.